إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبحمد الله سبحانه وتعالى ما زلنا نقرأ شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن أبي المحسن البدر حفظهم الله عز وجل. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة، فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين، ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى ببنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. غزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر صوم في شعبان. فالحمد لله سبحانه وتعالى، لما فرغ الناظم من حوادث السنة الأولى من حوادث السيرة النبوية في المدينة، أتبعها بحوادث السنة الثانية فيها، فذكر 14 فذكر 14 حادثة. فالحادثة الأولى غزوة بواط. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on continue notre explication du poème Al-Urjuzat al-Mi'iyya de l'imam Al-Allama Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Donc, lorsque le poète a terminé d'énoncer les événements s'étant déroulés la première année parmi les événements de la biographie prophétique à Médine, il enchaîne ici avec les événements de la deuxième année, de la deuxième année de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et en tout, il va énoncer, bi'idhnillah, 14 événements. Donc on avait déjà commencé la semaine dernière à mentionner ces événements-là. Le premier, Ghazwatu Buwat, la bataille de Buwat. Le deuxième, Ghazwatu Badrin el-Oula. Le deuxième événement, l'expédition de Badr. La première expédition de Badr. الثالثة تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. Troisième événement, le détournement de la Qibla, de la prière, de Beit al-Maqdis vers al-Ka'ba, l'honoré. Donc ça c'était donc le troisième événement qu'on a mentionné. Al-Rabi'a, Ghazwat al-Ushayr. Quatrième événement, la bataille de Ushayr. Wal-Khamisa, Fardu Sawmi Ramadan. Et le cinquième événement, l'obligation du jeûne de Ramadan. Voyez, donc on s'est arrêté du coup au cinquième événement de la deuxième année yani de l'égir du prophète alayhi salatu wassalam. طيب ثم قال الناظم رحمه الله والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 شهر. فقال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى نعم والغزوة الكبرى التي ببدر وهي أولى الغزوات الكبرى وقد دارت رحاها بين المسلمين وكفار قريش وكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الأصل لملاقات عير لقريش قادمة بتجارة من الشام صحبة أبي سفيان فاستصرخ أبو سفيان قريشا في مكة وأرسل لهم الصريخ فتجهزوا وخرجوا لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام وفرت العير وتلاقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في الموقعة المعروفة ببدر وحصل القتال والتحم صفان ومن الله عز وجل على المؤمنين بالنصر المبين وانهزم الكفار شر هزيمة وأعطوا أكتافهم المؤمنين أو للمؤمنين فارين يأسر المسلمون منهم فريقا ويقتلون فريقا فأسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70 وقتل كثير من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم في هذه المعركة وكان صلوات الله وسلامه عليه في ليلة القتال عين مصارع كبراء هؤلاء فكان يشير إلى أمكنة معينة كما ثبت في الصحيح يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Donc, il dit ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, est la première ou la grande bataille plutôt qui s'est déroulée à Badr. Donc, ce fut la première des grandes batailles durant laquelle donc les musulmans se sont confrontés aux mécréants de Quraysh. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était donc sorti à la base afin de rencontrer le convoi de Quraysh qui revenait donc avec des objets, des marchandises destinées au commerce de la région du Chem ou des terres de Chem. En compagnie de Abu Sufyan. Et donc Abu Sufyan Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des émissaires afin de demander de l'aide aux mécréants de Quraysh à la Mecque. Ils se sont donc préparés et sont sortis pour se confronter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le convoi a réussi à s'enfuir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les polythéistes se sont rencontrés durant cette bataille, yani célèbre, qui est la bataille de Badr. Et donc le combat eut lieu et les deux armées se sont rencontrés et confrontés. Et Allah Jalla wa Ala, comme vous savez, a offert aux croyants la victoire éclatante. Et les mécréants ont été écrasés de la plus forte des manières et ont donc tourné le dos aux croyants et s'enfuir. Donc les musulmans ont fait prisonnier une partie d'entre eux et ont tué une autre partie. Ils ont fait prisonnier parmi eux 70 individus et ont tué parmi eux 70 individus. Et donc beaucoup de leurs dignitaires, il y en a des dignitaires, des kuffars, ainsi que leurs notables et leurs personnalités ont été tués dans cette bataille. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc la nuit de ce combat, il a précisé et détaillé les lieux de beaucoup de leurs notables, des lieux de combat de leurs notables. Et donc il a indiqué des endroits spécifiques, comme cela a été affirmé dans l'Authentique de Muslim, rahimahullah. Il a dit donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, ceci est le lieu de combat de un tel et de un tel. Taïeb. Et personne parmi ces individus-là nommés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pu éviter l'endroit qui avait été indiqué par le prophète noble, salawatullahi wa salamuhu alayhi. فغنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة وكان ذلك اليوم يوم فرقان كما سماه الله تبارك وتعالى في القرآن لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل وأعز فيه المسلمين وذل الكافرين وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب الأعداء والخصوم. Puis il dit ici, Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, et donc les musulmans, à la fin de cette bataille, ont empoché un butin, yani, énorme. Et ce jour-là, ce fut donc le jour de El Furqan, de la distinction, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a appelé dans le Coran, de la sourate Al-Anfal, Yawm Furqan. Donc pourquoi Allah Jalla wa Ala l'a appelé le jour de la distinction? Car ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué et séparé entre le mensonge et la vérité. Et il a donné la gloire et la suprématie aux musulmans et il a humilié les mécréants. Et ce jour-là, donc l'islam a obtenu un prestige, une force, et a inspiré la crainte dans le cœur de ses ennemis et de ses opposants. Hein? Il dit Allah Jalla wa Ala dans la sourate Al-Furqan, « Wa ma anzalna ala abedina yawm al-furqani yawm al-taqal jam'an. » Dans le sens rapproché, Allah il a dit, nous avons fait descendre sur notre serviteur, hein, en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour de la distinction, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, c'est-à-dire le jour de la bataille de Badr. Voyez? Non. ثم قال في الصوم في سابع عشر الشهر أي في اليوم السابع عشر من شهر الصوم شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة. Puis après l'auteur, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah, durant le jeûne du 17 du mois. Ça veut dire que cette bataille-là, elle a eu lieu le 17e jour du mois du jeûne de Ramadan, béni, durant la deuxième année de l'Hégire. Donc si on te demande quand s'est déroulée la bataille de Badr, la réponse, le 17 du mois de Ramadan, la deuxième année de l'Hégire. طيب إذا هذه المعركة كانت عظيمة وكان معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم 317 رجلا والهدف هو الاستيلاء على القافلة فأرسل أبو سفيان كما ذكرنا إلى مكة برسالة يستنفر قريشا لنجدة أموالهم فتجهز المشركون وأعدوا للقتال عدته يعلوهم الفخر والخيلاء وكان عددهم نحو الألف وما دروا أنهم ذاهبون إلى مصارعهم فلما كانوا قريبا من بدر جاءهم الخبر بنجاة القافلة ولكن أبى أبو جهل ومن معه الرجوع وأرادوا إظهار قوتهم وإثبات بطولتهم فيما يظنون وأرادوا أن يوجعوا أهل الإسلام فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وجعل غرورهم وافتخارهم وبالا عليهم فهزموا شر هزيمة ما قال الشيخ العتيبي وكان معركة حاسمة فاصلة ويومها يوم الفرقان كما سماه الله جل وعلا في القرآن الكريم وساعدت في انتشار الإسلام وهيبة أهله حتى أن من لم يسلم من أهل المدينة أظهر إسلامه خوفا على نفسه فنجم النفاق. يجي الشيخ العتيبي حفظه الله تعالى. Le prophète, donc, durant cette bataille-là, il était sorti avec 317 hommes. Avec 317 hommes. Et donc, leur objectif, c'était de quoi? C'était de s'emparer du convoi. Du convoi des Koufar de Quraysh. Et donc, comme on a dit, Abu Sufyan, il a envoyé un message aux mécréants qui étaient à la Mecque afin qu'il les aide face aux musulmans et afin donc de sauver leurs biens. Et donc les polythéistes se sont préparés, ont préparé leurs armes, hein, leurs boucliers, leurs lances, leurs flèches, et sont partis donc avec l'orgueil, avec l'avantardise et la vanité. Et par contre, eux, ils étaient 317. Donc il est parti avec 317 hommes. Alors que les kofars, eux, ils étaient combien? Ils étaient environ 1000. Ils étaient un millier. Un millier. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient à leur échec et leur défaite. Et lorsqu'ils étaient donc proches de Badr, ils ont appris l'information comme quoi Le convoi de Quraysh avait réussi donc à s'enfuir. Donc ils auraient pu faire demi-tour et ne pas combattre, puisque le convoi avait été sauvé des mains des musulmans. Mais Abu Jahl, il a refusé. Il a refusé de faire demi-tour et de rentrer à la Mecque. Et les kofars, donc, ont persisté à vouloir, soi-disant, montrer leur puissance et leur force. Ont voulu manifester leur héroïsme, comme ils croyaient. Ils ont voulu également faire du mal aux musulmans. Et Allah Jalla wa Ala donc leur a fait subir des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et Allah Jalla wa Ala a fait de leur vanité et de leur orgueil un fléau pour eux. Ils ont donc été défaits et ont subi une défaite énorme. Et ce fut donc une bataille, la bataille de Badr, une bataille donc éclatante. Et ce jour-là, encore une fois, on l'appelle le jour du discernement, ou le jour d'El Furqan, de la séparation entre le faux et le vrai, comme Allah Jalla wa Ala l'a appelé, Yawmul Furqan. قال جل وعلا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. Et donc cette bataille-là a eu des conséquences et des répercussions très positives pour l'islam, pour la propagation de l'islam, pour le prestige des musulmans, jusqu'à ce que même ceux qui étaient à Médine et qui n'avaient pas encore embrassé l'islam, eh bien, ils ont commencé à montrer en apparence l'islam, car ils avaient peur pour eux-mêmes. Et à partir de là, donc, l'hypocrisie également a fait son apparition. Allah al-Musta'an. ثم قال الناظم رحمه الله ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدر وقوله رحمه الله ووجبت فيه أي شهر الصوم زكاة الفطر أي الفطر من شهر رمضان المبارك صاعا من طعام عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وتسمى هذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان المبارك من بعد بدر بليال عشر أي أن زكاة الفطر وجبت في آخر شهر رمضان بعد غزوة بدر بعشر ليال ووقعت بدر كانت في السابع عشر منه فبعدها بليال عشر أي قبل ختم الشهر بيومين أو ثلاثة فرضت هذه الزكاة. Puis l'auteur, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala? Et la zakat al-fitr a été rendue obligatoire à ce moment-là, c'est-à-dire pendant le mois du jeûne, le mois de Ramadan. D'accord? Donc on a vu, la bataille de Badr s'est déroulée, quel jour? Le 17 de quel mois? Du mois de Ramadan, quelle année? L'an 2 de l'Hégire. L'an 2 de l'Hégire, taïeb. Eh bien, il faut savoir qu'à la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire 10 nuits après la bataille de Badr, la zakat al-fitr a été rendue obligatoire. D'accord? Dans la zakat al-fitr que vous connaissez, c'est donc là par rapport à la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Donc la zakat al-fitr, c'est en quantité 1 sa'. La quantité de un sa' de nourriture, donc, que tout individu se doit de verser. L'enfant comme l'adulte, le garçon comme la fille, celui qui est libre comme celui qui est esclave. Et pour quelle raison on appelle cette zakat, on l'appelle zakat al-fitr? Eh bien parce que elle est relative au fitr. Et le fitr, c'est quoi? C'est la rupture du jeûne du mois de Ramadan béni. Puis il dit donc l'auteur, après Badr, 10 nuits, de 10 nuits, donc 10 nuits après la bataille de Badr. C'est-à-dire que Zakat al-Fitr a été rendu obligatoire à la fin du mois de Ramadan, après la bataille de Badr, 10 nuits après. Et on sait donc, vu que la bataille de Badr s'est déroulée le 17 du mois de Ramadan, et donc 10 jours après le 17, on se retrouve donc à la fin du mois de Ramadan, 2 jours avant ou 3 jours avant la fin du mois de Ramadan. Et donc à ce moment-là, la zakat al-fitr a été rendue obligatoire. Faqala ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, wa fiha ay fi sanati thaniya, umira an-nas bi zakat al-fitr. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين وأمرهم بذلك. يجي الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. Donc durant la deuxième année, on a ordonné aux gens de verser la zakat al-fitr. Donc la zakat al-fitr, c'est encore une fois celle que l'on verse à la fin du mois de Ramadan en nourriture aux pauvres. Il a été dit au prophète, alayhi salatu wassalam, ou afwan, il a été dit plutôt que le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait un discours en s'adressant aux gens avant la rupture du jeûne de Ramadan, un jour ou 2 jours avant. Et c'est là que le prophète, il leur a ordonné de verser zakat al-fitr. ثم قال وفي زكاة المال المفروضة ذات النصب خلف أي خلاف بين أهل العلم متى فرضت وقد قال جماعة من أهل العلم إنها كانت في سنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وفي هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين ومن المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب فدري أي فأعلم ذلك puis dit l'auteur رحمه الله تعالى وفي زكاة المال et au sujet de la zakat al-mal à ne pas confondre avec la zakat al-fitr donc on a parlé de la zakat al-fitr que l'on verse à la fin du mois de Ramadan cette fois on va parler de la zakat al-mal la zakat qui est imposable imposé sur les biens de la personne, obligatoire. Et bien sûr, chaque bien va comporter un nisab, c'est-à-dire un seuil à partir duquel la zakat devient obligatoire. D'accord? Il dit l'auteur, au sujet de cette zakat, zakat al-mal, sur les biens, il y a un khulf. C'est quoi un khulf? C'est une divergence. Un khilaf, un khulf. Entre les savants sur à quel moment cette zakat al-mal a été rendue obligatoire. Donc les savants ont divergé sur le moment auquel cette zakat est devenue obligatoire. Donc un groupe parmi les savants, ils ont dit qu'elle est devenue obligatoire la deuxième année de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Bidayati wa Nihaya, il dit et cette année-là par rapport à ce qu'ont cité plus d'un savant parmi les derniers savants, Mutaakhirin, eh bien la zakat, elle-même, a été rendue obligatoire. La zakat qui comporte, comme on a dit, des seuils à partir desquels la zakat devient obligatoire. En arabe, on dit al-nusub, qui est le pluriel de nisab. Al-nisab, c'est le mufrad. Et le djem, c'est Nusub. Puis dit l'auteur, Fadri, et sache cela, et sache que donc, la zakat al-mal est devenue obligatoire la deuxième année de l'hégire. Non. ثم قال الناظم رحمه الله وماتت ابنة النبي البري صلوات الله وسلامه عليه رقية رضي الله عنها قبل رجوع السفر أي قبل رجوع الجيش الذين سافروا للقتال إلى المدينة. Puis dit l'auteur رحمه الله تعالى إلى fille du prophète. Et la fille du prophète, du bon prophète, est morte ou mourut. La fille du prophète mourut. Et c'est qui cette fille? Ruqayya. Ruqayya, radiallahu anhu. Avant le retour de As-Safr, c'est-à-dire de l'armée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yani avant que la troupe des musulmans soit revenu du combat de Badr, de la bataille de Badr à Médine, avant qu'il retourne à Médine, donc sa fille Ruqayya mourut. Radiallahu anha. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lamma intahat al-ma'raka aqama bil-'arsa 3 ayyam. Wa kana min 'adatihi alayhi salatu wa salam kama thabata fi as-sahihayn. إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثا ثم رجع فلما أقام بساحتهم وبساحتهم ثم سار ومعه الأسارى والغنائم قافلا من معركة بدر إلى المدينة بعث عليه الصلاة والسلام بين يديه إلى المدينة بشيرين يبشران بالفتح والنصر وهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة وزيد ابن حارثة إلى سافلة فقال أسامة بن زيد فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام lorsque la bataille de Badr se termina, il avait l'habitude de rester sur place, de rester donc sur ce champ, hein, cet endroit-là pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Donc parmi ses habitudes, comme cela a été confirmé dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, lorsque il obtenait la victoire sur un peuple, eh bien, il est resté sur leur terre pendant 3 jours. Et puis, il rentrait chez lui. Donc, il est resté pendant cette période-là, cette durée. Puis, il a repris la route en emportant avec lui donc les prisonniers de guerre, ainsi que le butin qu'ils avaient amassé. En revenant donc de la bataille de Badr, en se dirigeant vers le Médina. Mais avant qu'ils arrivent à Médine, il a dépêché 2 hommes qui étaient avec lui pour qu'ils arrivent avant eux à Médine et pour qu'ils puissent annoncer aux musulmans de Médine qu'ils avaient donc remporté la victoire. Et ces 2 hommes-là qu'il a envoyés, ce sont Abdullah ibn Rawaha et Zayd ibn Haritha. Donc il a envoyé Abdullah ibn Rawaha pour qu'il puisse annoncer cette nouvelle-là au nord de Médine, alors que Zayd ibn Haritha, il a envoyé au sud de Médine, pour qu'il puisse donc annoncer à tout le monde en même temps la nouvelle, incha'Allah ta'ala. Il dit Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu. Donc Oussama, il était à Médine, ibn Zayd. Et il a dit, lorsque l'information nous est parvenue, nous étions en train d'enterrer Ruqayya la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque l'information leur est parvenue de la part de Abdullah ibn Rawaha ou de Sayyid ibn Haritha, eh bien, ils avaient yani, enterré Ruqayya, la fille du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. L'information donc de la victoire, du secours et du succès remporté contre ceux qui associaient à Allah tabarak wa ta'ala, qui reniaient le tawhid et qui ont mécru donc à l'islam et au message de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc on comprend par là, par ce hadith, on comprend que Ruqayya est décédée avant le retour de son père sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال الناظم رحمه الله زوجة عثمان أي زوجة ابن عفان رضي الله عنه وكان قد احتبس عندها بالمدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المعركة وهي مريضة ولهذا قسم له النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر. On finit sur ça, inshallah ta'ala. Donc il faut savoir que Ruqayya, c'est non seulement la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était aussi l'épouse du compagnon Uthman, ibn Affan, radiallahu anhu. Et il faut savoir que Uthman n'était pas parti à la bataille de Badr. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu salam lui avait ordonné de rester à Médine, de rester auprès de sa fille Ruqayya pour la soigner. Donc sa fille, elle était malade déjà avant qu'il parte dans la bataille de Badr, et le prophète il avait dit à son époux, donc à Uthman, de rester auprès d'elle pour la soigner. Voyez. Et il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a réservé une part du butin, comme si Uthman était parti combattre avec eux. Donc bien qu'il n'ait pas participé au combat, et qu'il soit resté à Médine par ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a réserver une part du butin pour Uthman, hein, l'époux de sa fille Ruqayya, qui décéda donc avant qu'il rentre à Médine. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa radiyallahu an sahabati ajma'in. Naktafi bihada inshallah ta'ala. Wal ilmu inda Allah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.